C'est la suite ?
Oui, c'est la suite et fin, Bezrat Hashem. Donc, nous avons dit la fois dernière que la Megillah nous oblige à une nouvelle approche concernant le lien entre Akadosh Baruch Hu et le monde. C'est-à-dire qu'il y a en fait l'époque d'avant Pourim et il y a l'époque d'après Pourim. Tout ce qui était avant Pourim, c'est une histoire où Akadosh Baruch Hu se dévoile d'une manière claire dans le monde, miraculeuse, surnaturelle. C'est comme si la nature dérangeait. Donc Akadosh Baruch Hu va mettre de côté la nature pour intervenir. L'exemple type, c'est la sortie d'Égypte. La mer Yam Souf gêne. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la mer? On la pousse. Okay? On l'ouvre en deux. C'est comme si on disait à la matière, tu me gênes, parce que je dois faire des choses qui sont surnaturelles. Donc, pour l'instant, toi, tu es la nature. Donc, l'eau qui a comme nature de couler va se dresser comme un mur. C'est-à-dire, on va transformer la nature pour appliquer le miracle, pour qu'Akadosh Baruch Hu intervienne. Ça, c'est avant l'histoire de Pourim. Donc toute l'histoire jusqu'à Pourim se fait de cette manière-là. À partir de Pourim, il y a un switch, il y a un changement de situation et la réalisation d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde se fait toujours, bien entendu, parce que ce monde ne peut pas exister sans Akadosh Baruch Hu, mais cette fois-ci, ça se fait d'une manière habillée dans les éléments de la nature. Ça, c'est clair, nous avons développé ça la dernière fois. Et donc, à partir de maintenant, nous devons comprendre que notre Géoula actuelle, dont on est en plein dans son processus de dévoilement, eh bien, ce sera toujours des manifestations de Dieu, mais habillées dans les événements historiques naturels, c'est-à-dire dans les situations politiques telles qu'elles sont dans le monde, sans devoir bouger la nature, en laissant la nature telle qu'elle. Et donc Akadosh Baruch Hu, et là c'est plus difficile à voir pour nous, les humains, Akadosh Baruch Hu s'habille, s'intègre, s'insère dans ce qui existe. Il n'a pas besoin de bouger des situations pour apparaître d'une manière surnaturelle. Tout paraît naturel. Ceux qui ont les yeux pour voir verront Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de ces événements apparemment naturels. Et ceux qui n'ont pas les yeux pour voir ne verront pas la manifestation de Dieu dans ce processus est donc dans toute cette histoire moderne d'après Pourim. Résumé, pourquoi c'est Pourim qui nous donne cet enseignement? Tout simplement parce que les sages, nous l'avons dit la dernière fois, dans le Midrash de Tehilim, Esther sof kol hanissim. Esther est la fin de tout miracle. Moralité, à partir de Esther, tout est nistar, tout est caché, tout est habillé dans la nature. Quel?
J'ai regardé sur le temple, il y avait 5 ou 10 miracles qui étaient encore. C'est-à-dire que c'était quand même la moitié.
Ou miracle de en, ou, a, i, ou. Dans quoi tu parles? De quoi tu parles?
Dans le deuxième temple. 5 des 10 miracles du premier temple qui étaient dévoilés dans le deuxième temple. Non, c'est après Esther, c'est-à-dire que tu n'as aucun miracle.
Qu'est-ce que c'est, tu appelles miracle, par exemple?
La fumée sans arrêt.
Alors ça, c'est des éléments qui s'habillent dans la nature. C'est-à-dire, la fumée, c'est un élément qui s'habille dans la nature. Quel monde droit ou tordu, les gens vont te dire, ça dépend du vent. S'il n'y a pas de vent, je peux te faire monter quelque chose de droit. Je comprends, tout est habillé, tu peux trouver des explications à tout. Quand je parle de miracle surnaturel, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement complètement. D'accord? D'accord. Mais au niveau du miracle réel, alors là, les événements sont beaucoup plus difficiles à expliquer. Pourquoi ça arrive au moment où on veut que ça arrive? Pourquoi l'ouverture de la mer se fait au moment où les enfants d'Israël se trouvent là-bas dedans, même si tu me trouves des explications, pourquoi ça s'est passé à l'instant où j'ai besoin. Et pas avant et pas après. Et pourquoi les enfants d'Israël, eux, sont passés, les Égyptiens, eux, ont été noyés, à quelques heures de différence. Okay? Ça, c'est déjà beaucoup plus difficile à expliquer. Donc, moralité, la Gemara nous dit qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile dans la Torah, dans l'histoire de Esther, d'une manière cachée. Et c'est pour ça que les sages posent la question dans la Gemara, Esther mina Torah minain. Où est-ce que nous avons trouvé Esther dans la Torah? Nous avons dit dans le verset de Dvarim, Ken 31, Va'anochi haster astir panai bayom hahu. Et moi, Akadosh Baruch Hu, je cacherai mon nom, Ken, ce jour-là. À partir de ce jour-là. Nous avons fait attention que le terme qui apparaît ici, c'est Va'anochi. Est-ce que vous vous rappelez du premier Anochi, le jour du don de la Torah, la première parole, c'est Anochi Hashem Elohecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ça, c'est le don de la Torah, donc au mont Sinaï. Et là, ça commence par Ve Anochi. Ça s'imoulève. C'est comme s'il y avait deux fois Anochi. Anochi, Ve Anochi. C'est-à-dire, il y a le premier Anochi où le dévoilement se fait au mont Sinaï. Et le deuxième Anochi, cette fois-ci, va Anochi, Aster Astir Panai, cette fois-ci, ce même Anochi, qui est en vérité l'essence de la manifestation divine sur terre, elle, cette essence-là, va être cachée. Donc, une fois dévoilée, Anochi, ve Anochi, et un deuxième degré de Anochi, cette fois-ci, caché. Donc, dévoilé, puis caché. Immature, puis mature. Nous avons expliqué que lorsqu'Akadosh Baruch Hu apparaît dans le monde, c'est parce que le monde est incapable de le recevoir. Et donc il apparaît d'une manière miraculeuse qui dépasse la nature, parce que la nature n'arrive pas à le contenir. Mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu descend dans la nature et que la nature le contient, ça veut dire que la nature est montée de niveau, qu'elle est capable de contenir la lumière de Dieu. Donc Dieu peut se cacher dans la nature. Comme moi, je me cache dans mes vêtements. C'est-à-dire, mes vêtements, ça s'appelle Esther. Une cachette. Et mon être rentre à l'intérieur de ces vêtements pour se dévoiler. C'est-à-dire, vous voyez que mes chemises bougent maintenant. Mais en réalité, ma chemise ne bouge pas, c'est moi qui bouge à l'intérieur de ma chemise. Eh bien, quand vous voyez les événements dans le monde, c'est comme si vous regardez une chemise ou un pull. Alors, tous ces événements ne bougent pas tout seuls. C'est celui qui est à l'intérieur de ces événements qui fait bouger tous ces événements. Donc tout ce qui se passe au niveau politique, social, au niveau mondial, ça s'appelle un vêtement. À l'intérieur duquel se trouve, se cache Akadosh Baruch Hu et fait agir ce vêtement, fait bouger ce vêtement, en réalité se dévoile à travers sa cachette. C'est ce que nous faisons tous les jours d'ailleurs. Pour sortir à l'extérieur et se dévoiler aux autres, nous sommes obligés de nous cacher en nous habillant. Donc, tous les matins, je me cache pour me dévoiler. Vous comprenez? On fait quelque chose d'apparemment paradoxal. À chaque fois, on se cache pour se dévoiler. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'on ne peut pas se dévoiler si on ne s'habille pas dans un vêtement. De la même manière, la Neshama ne peut pas réagir et agir dans ce monde si elle n'est pas habillée dans son vêtement qui est le corps. Mais c'est elle qui fait bouger le corps. Les yeux ne voient pas. C'est la Neshama qui voit à travers un élément qui s'appelle les yeux. Donc, pour la Neshama, c'est un vêtement. Seulement, ce vêtement est un vêtement capable de faire voir la Neshama, de montrer la Neshama. C'est un outil. D'accord? De la même manière, les mains, de la même manière, la bouche, de la même manière, tous les éléments que nous avons. En réalité, qui les fait vivre à chaque instant? Le divin qui est à l'intérieur. Donc c'est comme si c'était Dieu à l'intérieur d'un corps. C'est comme si c'était Akadosh Baruch Hu dans l'histoire de Esther. Donc quand les poupées de toute la Megillah, ce sont toutes des poupées, okay? Achashverosh, Mordechai, Esther, Haman, ce sont des poupées qui sont manipulées par Akadosh Baruch Hu. Et celui qui ne sait pas voir ça, voit les poupées comme si elles agissaient seul. Mais en réalité, ces poupées sont guidées.
D'accord, mais
par Akadosh Baruch Hu. Il y a un libre arbitre, c'est la différence avec les animaux et avec tout le reste des éléments, c'est que la personne a la possibilité de faire telle et telle chose. Mais Akadosh Baruch Hu, malgré notre libre arbitre, ne peut pas rater sa création. Et donc, obligatoirement, lorsque les choses sortent dans une direction qui n'est pas bonne pour les intérêts d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu sait comment ramener les choses, et même du mal, finalement, va se tourner et va devenir du bien. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on arrive à ce que Akadosh Baruch Hu a prévu. C'est pas parce qu'on a un libre arbitre qu'on peut gâcher toute la création et empêcher Akadosh Baruch Hu de se dévoiler. Notre libre arbitre n'a pas cette force-là. Notre libre arbitre, il a une autre force. Je vais la décrire tout de suite. La force uniquement de faire partie de ce processus ou de sortir de ce processus. C'est tout. Il ne faut pas donner au libre arbitre l'impression qu'il peut tout faire. Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas changer la volonté de Dieu, notre libre arbitre. Mais il peut faire en sorte, chas v'shalom, que la personne soit en dehors de l'histoire ou à l'intérieur de l'histoire. C'est tout. Le libre arbitre se situe uniquement dans ce point-là. Quel? Tu te trompes parce que tu traduis la Gemara d'une manière erronée. Ce que tu viens de dire, je rappelle, c'est marqué dans le Talmud, dans le traité de Shabbat à la page 85, où il est dit « Kafa alem et ahar kegigit » il leur a mis la montagne sur la tête en leur disant « Im atem mekablim ha-Torah mutav » si vous recevez la Torah, c'est bien, « et im lav » et sinon, toi, tu as traduit « c'est ici que vous serez enterré ». C'est pas ce qui est marqué dans la Gemara. « Sham » là-bas sera votre enterrement. C'est où là-bas, nous disent les sages? C'est pas ici sous la montagne, c'est ce que tout le monde comprend, parce qu'ils ne font pas attention aux précisions de nos sages. Donc ouvre la Gemara et tu verras qu'il n'y a pas marqué Po, il y a marqué Sham, et les sages nous expliquent qu'est-ce que ça veut dire Sham. Ça veut dire dès le début de la création, je change complètement mon système. C'est-à-dire j'enterre cette pensée-là et je refais un monde d'une autre manière qui va réussir. Autrement dit, c'est pas toi maintenant qui va m'empêcher de réaliser mon monde. Je fais comme un film en arrière et je recommence avec une autre forme. D'accord? Quel? C'est un libre arbitre, exactement un libre arbitre, mais le libre arbitre d'écouter la voix intérieure qui te dit de monter. Tu as des copains qui ont fait comme s'ils n'avaient pas écouté la voix intérieure. C'est des bons copains à toi, tu as grandi dans les mêmes écoles, dans les mêmes endroits. Toi, tu as entendu et accepté. Eux ont entendu, ou pas du tout, mais en tout cas, ils n'ont pas accepté pour l'instant. Donc, ils sont là-bas.
Donc, ils ont été libres de ne pas entendre.
Tout à fait. Ils sont libres de, pas de ne pas entendre, de ne pas prendre la décision une fois entendu. Okay. Donc, le seul libre arbitre que nous ayons dans ce monde, c'est d'étudier ou de ne pas étudier. C'est-à-dire d'être en contact avec tous ces éléments dont nous parlons maintenant, ou de faire comme s'ils n'existaient pas. Donc apparemment, je sors du film. En fait, je ne punis que moi-même. Ok ?
Et par rapport à Malek, justement, qui
détruit
justement la présence d'Akadosh Baruch Hu sur la terre. Justement, ça va à l'encontre.
Non, ça ne va pas du tout à l'encontre, puisque qui gagne en fin de compte ? Est-ce qu'il réussit à Malek ? Non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, aucune force dans ce monde, ni même Amalek, ne peut aller contre les intérêts d'Akadosh Baruch Hu. Donc d'une manière ou d'une autre, un jour ou un autre, plus tôt ou plus tard, Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde, puisqu'il y a une guerre constante contre Amalek. Et dans l'histoire, ça intéresse Akadosh Baruch Hu qu'Amalek reste à une certaine époque, donc il ne faut pas complètement le terminer. C'est pour ça que l'ordre dit à Yehoshua, c'est Lech chalosh et Amalek, va affaiblir Amalek, mais pas le détruire complètement. Alors que dans d'autres instants dans l'histoire, il faut le détruire complètement. Ça veut dire qu'il y a des moments dans l'histoire où Amalek doit encore jouer son rôle, parce qu'il doit réveiller le peuple d'Israël. Okay? Par exemple, dans l'histoire de Pourim, qui a fait le travail? Aman. Ça veut dire Aman a été en fait le meilleur serviteur pour Akadosh Baruch Hu, plus que 48 prophètes juifs et 7 prophétesses. 48 plus 7, Ça fait 55. On a eu 55 prophètes qui ont essayé de nous faire tchouva. Personne n'a écouté. Et Achashverosh et Aman, juste en enlevant sa bague, en lui donnant à Aman, il a réussi à faire ce travail-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu utilise même les forces qui sont apparemment négatives dans le monde pour arriver à réaliser ses intérêts divins. Donc vous voyez que finalement ça marche. Ça passe par le chemin, par le biais du bien ou par le biais du mal. Ken?
Donc c'est
pour... Tout à fait. Regarde bien les lettres de Ahmadinejad, tu trouveras tout. Il y a Haman dedans, il y a tout le reste. Fais tes calculs et tu verras.
Alors, quand tu dis une xéra sur le peuple juif, ça veut dire quoi?
Une xéra, ça veut dire qu'il y a un potentiel qui est une force ni bonne ni mauvaise, qui est en train de descendre, mais sur des éléments qui ne sont pas prêts. Je répète. Il y a une énergie, par exemple, de 1000 volts qui doit descendre dans le monde. Mais en ce moment, les enfants d'Israël n'arrivent pas à résister à 1000 volts. Donc si cette lumière de 1000 volts descend, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont griller. Donc qu'est-ce que c'est que cette gezera en réalité? C'est ces 1000 volts qui descendent. Ce n'est pas une mauvaise ou une bonne chose. 1000 volts, c'est 1000 volts. Ça peut être très bien. Si j'éclaire un stade de foot, c'est magnifique. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour annuler la xéra? C'est tout simplement renforcer ma résistance, c'est-à-dire faire en sorte que je puisse recevoir ces 1000 volts. Et si ces 1000 volts descendent et que je peux les recevoir, je vais éclairer le monde avec ces mêmes 1000 volts. Je ne dois pas les annuler, ces 1000 volts. C'est toute mon énergie. Donc, je dois changer mon ustensile pour être capable de recevoir la lumière. Vous comprenez? Il n'y a rien de mal qui sort de Dieu. Dieu ne sort pas du mal. Ce n'est pas un nerveux qui, de temps en temps, casse des gens, fait des plaies en Égypte. C'est pas comme ça. Même les plaies en Égypte ne sont pas des plaies. Les plaies d'Égypte, on les appelle plaies. Pourquoi? Parce que c'est une lumière très puissante qui descend du ciel. Mais comme les Égyptiens ne sont pas capables de la recevoir, cette lumière, eh bien, ils brûlent. Ça devient du poison pour eux. Ça devient de la graisse. Ça devient du feu. Ça devient des tremblements de terre. Ça devient du sang. La preuve, c'est que ceux qui sont capables de résister à cette lumière, c'est-à-dire les enfants d'Israël, qui sont juste à côté des Égyptiens, pour eux, c'est une lumière. Pour eux, c'est un bénéfique. Donc quand il y a la même lumière, quand elle descend en Égypte, ça devient de l'obscurité. Parce que quand tu as une trop forte lumière et que tu n'as pas la résistance pour cette lumière, tu t'aveugles. Donc pour les uns, c'est l'obscurité. Ou les chol bene Israël, haya or. Mais les enfants d'Israël, au même moment, ils ont la même lumière. Mais pour eux, c'est une lumière qui est capable d'être intégrée parce qu'ils ont les ustensiles adéquats. Comprenez? Quel? Au niveau de l'idolâtrie, mais pas au niveau de leur neshama. C'est-à-dire que là se dévoile en réalité qui est différent, pas au niveau de ses actes. Donc ta question est très bonne. Donc, Dieu ne sauve pas Israël en Égypte par rapport à nos actes, mais par rapport à notre identité, par rapport à notre neshama. Cette idée de Neshama, elle existe depuis bien avant la création du monde. C'est-à-dire Dieu a créé un peuple avec une Neshama spéciale qui est capable de résister à sa lumière et ne pas brûler lorsqu'elle descend. D'accord? Alors quel est le miracle? Le miracle, c'est qu'Akadosh Baruch Hu fait fi, c'est-à-dire c'est comme s'il fermait les yeux sur les actions. Normalement, si tes actions ne sont pas bonnes, même si tu as une très très bonne neshama, lorsque la lumière arrive, elle peut te brûler. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu à cette époque-là? Et c'est pour ça que je parle de miracle dévoilé. Il fait comme si de rien n'était. Il survole nos actions. Il dit, c'est pas grave, je sais que vos actions ne sont pas bonnes pour l'instant, mais je ne vous juge pas selon vos actions, je vous juge selon votre neshama intérieur. Après, vous allez me rembourser. Et c'est pour ça que c'est un miracle dévoilé. Comment on appelle ce miracle où Dieu ne fait pas attention à nos actions, mais fait attention à notre âme intérieure? Pessah. Pessah, ça veut dire sauter par-dessus. Sauter par-dessus quoi? Dieu a sauté par-dessus quoi? Par-dessus nos actions. Par-dessus nos vêtements. Par-dessus nos maisons. C'est la même chose. Qu'est-ce que c'est la maison pour un homme? C'est un vêtement un petit peu plus grand. C'est tout. Quel? Ça, c'est le choix. Ça, c'est le choix. Je répète, le seul choix que tu as, c'est pas que la sortie d'Égypte se fasse ou ne se fasse pas, mais que tu participes ou tu ne participes pas. Donc, certaines personnes ont décidé de ne pas participer à cette histoire, à cette séquence du peuple d'Israël. Donc, elles sont mortes dans la plaie des ténèbres. C'est elles-mêmes qui ont choisi leur mort. Rester dans le noir. Bien. Et les choses, malheureusement, se répètent dans l'histoire, comme aujourd'hui. Il y a des gens qui ne comprennent pas que leur place est en Eretz Israël et qui continuent à s'obstiner à rester dans le noir de l'exil. Okay? Et c'est un choix. Personne ne peut les obliger. Okay? Est-ce que les choses sont claires? Alors maintenant, nous allons... Tout ce qu'on vient de dire, dans la demi-heure qui nous reste, on va essayer de le traduire par des lettres et des mots. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous expliquer tout ce que je viens de dire. Okay. Ceux qui n'ont pas de référence. Maintenant, vous allez suivre. Remez la davar. Donc, nous sommes dans le deuxième chapitre. Tout ce qu'on vient de dire maintenant, il y a une allusion très claire. Bamishnah, Megillah. Dans la Mishnah de Megillah. Vous avez déjà ouvert cette Mishnah, je suppose, de Megillah. La Mishnah de Megillah, début, tout début du début. C'est-à-dire le Perek Aleph, la première Mishnah. Elle nous dit une chose suivante. Megillah Nikret. Beyud Aleph, Beyud Bet, Beyud Gimel, Beyud Dalet, Betet Vav, Lo Pachot, Velo Yoter. Voilà le début de la Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire? La Mishnah nous dit que la Megillah peut être lue selon les situations d'un homme, ou le 11, apparemment, ou le 12, ou le 13, ou le 14, ou le 15 du mois de Hadar. Ni plus ni moins. Alors, je ne comprends pas. Ou les sages ne savent pas parler en hébreu. Et ça, je suppose que ce n'est pas vrai. Les sages sont très érudits dans la langue hébraïque, dans le Ruach HaKodesh et dans le Lashon HaKodesh. Et donc, s'ils écrivent de cette manière, c'est qu'ils savent ce qu'ils disent. Pourquoi je dis qu'ils ne savent pas écrire ou parler en hébreu? Tout simplement parce que cette manière de parler est fausse. On ne peut pas dire une chose pareille. Relisons la Mishnah. Megillah Nikret. Jusque-là, tout va bien. La Megillah est lue. Première question. Pourquoi il n'y a pas marqué? On lit la Megillah. On aurait pu dire Korim et Megillah. D'accord? Et alors? On lit la Megillah. Que ça veut dire la Megillah est lue? Elle est lue par qui? C'est pareil. Non, 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 non. Korim et Megillah be'arim kaele ou Korim et Megillah be'arim kaele. C'est un peu la même chose. On lit la Megillah dans une ville qui est entourée de murailles à telle date et dans une ville qui ça change rien du tout. Première question, mettez-la de côté. Ce qui m'embête un petit peu plus, c'est le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Lo pachot velo yoter. C'est-à-dire ni plus ni moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire que je dois lire normalement la Megillah tous les jours. Parce qu'il y a marqué ni plus ni moins. Ça veut dire pas moins que ces 5 jours-là, mais pas plus que ces 5 jours-là. On est d'accord? Ça veut dire que normalement, je dois lire la Megillah et le 11, et le 12, et le 13, et le 14, et le 15. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Sinon, j'avance pas. Nahon? Pourquoi tu n'es pas d'accord? Tu n'as pas compris? Il y a marqué l'opachot veloyoter. Qu'est-ce que ça veut dire l'opachot veloyoter? Donc, exactement ça. Donc le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. T'es d'accord? Je comprends quel est ton problème. Et ça, c'est mon vrai problème. Est-ce qu'il s'agit maintenant, dans ce qu'on vient de dire, de temps? On est en train de parler d'une notion de temps, oui ou non? Oui. On est en train de dire que c'est des jours dans lesquels la Megillah peut être lue. On est d'accord? Il y a fait meot. Et donc mon problème, il est beaucoup plus grand. On ne peut pas dire ni plus ni moins. On aurait dû dire ni avant, ni après. Si tu me dis ni plus ni moins, ça veut dire qu'apparemment tu ne parles pas de jours, de temps. Tu parles d'autre chose. Vous êtes avec moi? Ça veut dire que normalement, j'aurais dû lire la Mishnah si nous l'avions écrite. on aurait écrit comme ça. Korim et Amegila, Beyud Aleph, Beyud Bet, Beyud Gimel, Beyud Dalet, Betedvav, Lo Lifne, Velo Achare. Ça, c'est de l'hébreu. On est tous d'accord. Mais ça, c'est pas de l'hébreu, là. Ni plus ni moins en parlant de temps. Ça ne marche pas. Même en français, ça ne marche pas. La Megillah est lue le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. Ni avant, ni après. Ça, ça marche. Mais ni plus ni moins, ça ne veut rien dire. Alors pourquoi les sages s'expriment de cette manière-là? Alors j'ai enlevé l'idée que les sages ne savent pas parler en hébreu. Ça, je suis convaincu qu'ils savent bien parler en hébreu. Ça veut dire que j'arrive à une conclusion. Les sages ont choisi de parler comme ça parce qu'ils veulent me donner ici un message secret, subliminal. Et je vous propose de dévoiler ce secret dans cette Mishnah. Je reviens maintenant. Mettez tout ce qu'on vient de dire de côté. Lorsque vous étiez enfant, la première fois que vous avez vu le tétragramme, le nom de Dieu, vous aviez envie de le prononcer, de le dire. Un enfant, quand il commence à écrire, à lire, quand il arrive à Baruch Ata, il voit le nom Yud Ke Vav Ke, il est en train de dire Yeho. On est d'accord. Mais le papa, il lui dit non. Faut pas dire ça. Alors le bébé, il comprend rien. Il dit mais attends, mais c'est ce qui est marqué. Les autres lettres, quand je les vois, je les lis. Et là, il faut dire carrément un autre nom. Adon. On est d'accord? Alors l'enfant qui se pose la question, il dit mais il est où le Aleph? Il est où le Dalet? Adon. Tu es en train de me dire un nom qui n'existe pas ici. Je ne vois pas. Moi, c'est pas qui a marqué. Il n'y a rien marqué de tout ce que tu es en train de me dire. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Gemara, elle nous dit, tant que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin des temps, c'est-à-dire au dévoilement total d'Akadosh Baruch Hu, eh bien ce nom-là, le Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, ne peut pas se dévoiler encore sur terre. Il est obligé de s'habiller dans quoi? Dans un vêtement, dans un étui. Et quel est le nom de ce vêtement ou de cet étui? L'autre nom, celui qu'on dit, Adon. On est d'accord? Ça veut dire que le tétragramme, quand il se dévoile dans notre nom, dans notre monde, nous devons le prononcer Adon. C'est-à-dire, on regarde le vêtement parce qu'on ne peut pas s'adresser directement au nom. Vous êtes avec moi? Moralité. La Gemara nous dit tout ce que je viens de dire avec une petite phrase. Lo keshem she'ani nichtav, ani nikra. Pas comme je suis écrit, je suis lu, je suis dit, je suis prononcé. Nichtav be yud ke vav ke. La preuve, c'est qu'on m'écrit yud ke vav ke. Ve nikra, mais quand on me dit, quand on me prononce, on prononce un autre nom. Aleph dalet nun yud, Adon. Jusque-là, c'est bon? Qu'est-ce qui se passe? On vient de commencer, je suis en train d'expliquer. Sinon, je termine le cours. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Tout doucement. Un peu de patience. Donc, moralité, il y a le nom que je vois et il y a le nom que je dis. Alors que je vois quelque chose, mais je dis autre chose. Ça veut dire que le nom Yudke Vavke n'est pas prononçable encore dans ce monde. Ça vous rappelle quoi? La Megillah. Dans la Megillah Tester, on ne prononce jamais ce nom-là. Pourquoi? Parce que la Megillah, comme je viens de le dire au début de mon cours, c'est le début d'une nouvelle époque où on ne pourra plus dire le tétragramme, parce que le tétragramme s'est dévoilé, alors que maintenant, à partir de ce moment-là de Pourim, le tétragramme va être caché dans les événements historiques. Donc je réponds maintenant à la première question de la Mishnah, que j'ai posée tout à l'heure. Pourquoi il n'y a pas marqué Korim et Ta Megillah? Pourquoi il y a marqué Megillah Nikret? Pas parce que la Megillah est lue, parce que la Megillah est dite, c'est-à-dire on peut la prononcer comme le nom de Aleph, Dalet, Nun, Yud, qu'on peut prononcer, alors que le nom de Yud, Kevav, Ke, le tétragramme, on ne peut pas. Maintenant, vous comprenez pourquoi les sages ont utilisé cette forme de langue pour nous dire que la Megillah est dite. C'est-à-dire, je peux dire quoi ? Tous les événements naturels. Mais je ne peux pas voir clairement que c'est Akadosh Baruch Hu, parce que Akadosh Baruch Hu est caché dans ces événements. C'est la même chose. Nikret, ce n'est pas lire. Likro, c'est appeler. D'accord ? En hébreu, c'est la même chose. Appeler et lire en hébreu, c'est exactement pareil. Pose-toi la question, pourquoi ? C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, je ne peux pas prononcer. Okay ? Alors, pour l'instant, on n'est pas encore... C'est tout doucement, je commence à expliquer. Ça veut dire, Megillah Nikret, je ne peux pas prononcer le nom de Dieu. C'est-à-dire, je ne verrai pas Dieu clairement dans la Megillat Esther. Oubliez ça. Je ne verrai pas Dieu dans les événements actuels de la Géoula jusqu'à la fin des temps. Oubliez ça. C'est-à-dire, si tu n'as pas la capacité à voir que ça s'habille dans un autre nom, c'est-à-dire dans un vêtement, tu ne comprendras rien à tout ce qui se passe dans le monde à la fin des temps. Tu vas croire que Obama y fait des choses et que Benjamin Netanyahu fait un voyage pour essayer de faire un compromis, décider une date pour attaquer, que Ahmadinejad décide comme ça, que la Chine est en train de faire ci, que cette période est en train d'être la chute de tous les événements dans tous les domaines et économiques et ce que tu veux. Mais tout ça, c'est quoi ? C'est Megillah Nikret. Tout ce que je viens de dire, c'est la Megillah, c'est-à-dire des événements naturels. Comme l'histoire de la Megillah. Ouvrez la Megillah, c'est une histoire. Un jour, il y avait un royaume, et dans ce royaume, il y avait un roi, et le roi, il avait des messagers, ces messagers l'ont trompé, et il y avait un type qui s'appelait Mordechai, qui apparemment était juif, il est venu, il a sauvé le roi parce qu'il a dit qu'on voulait le tuer, donc on a pendu celui-là, on a tué celle-là, l'autre, il est venu, il est tombé dans le lit de Esther, l'Achashverosh a cru qu'il trompait sa femme avec... Une panique totale. Il est où Dieu là-dedans ? Rien du tout. Tu peux ne pas voir Dieu dans la Megillah. On est d'accord. Et pourtant, on dit Megillah Nikret. Ça veut dire que qu'est-ce que tu lis dans la Megillah ? Qu'est-ce qui est lisible dans la Megillah ? Que les événements que tu peux lire, c'est-à-dire les vêtements. Comment on appelait le nom du vêtement de Dieu ? Aleph Dalet Nun Yud. Adon. Donc tu ne liras, tu ne prononceras, tu ne verras que Aleph Dalet Nun Yud. Alors que qui se cache à l'intérieur ? Yud Ke Vav Ke. Pose ta question. Il y a fait, il y a fait. On y arrive. On arrive. On arrive maintenant aux dates. Yud Alef, Yud Bet, Yud Gimel, Yud Alef, Tet Vav. En chiffres, 11, 12, 13, 14 et 15. S'il s'agissait de temps, de jours. J'ai dit tout à l'heure que le langage hébraïque nous oblige à dire lo lifne velo achare, ni avant ni après. Donc apparemment, il ne s'agit pas de ça. C'est-à-dire que les sages ne viennent pas seulement nous donner des jours, des dates dans lesquelles on peut lire la Megillah. Ils nous ont dit lo pachot velo yoter. Qu'est-ce que ça veut dire lo pachot velo yoter? Ni moins, ni plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement tout. Et le 11, et le 12, ni plus, ni moins que ça. Vous êtes d'accord avec moi? C'est logique, tout ce que je viens de vous dire, c'est logique. Donc, et le 11, et le 12, et le 13, et le 14, et le 15. Parce qu'il y a marqué « lo pachot velo yoter ». Pardon? C'est pour ça que les sages, apparemment, nous disent que c'est des jours au début. Beyud Aleph, Beyud Bet, Beyud Gimel. Donc, jusqu'à maintenant, tu as l'impression que c'est des jours. Mais comme ils terminent la phrase en disant le pachot velo yoter, tu te dis stop, 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 là il y a un problème. J'ai pas le droit de faire moins que ça, ni plus que ça. Plus que tous ces jours-là. Alors faisons un compte ensemble. Si j'ai pas le droit. Si la Megillah ne peut pas être lue moins que 11, 12, 13, 14 et 15, ni plus. Ça veut dire qu'elle doit être lue 11, 12, 13, 14 et 15. Alors faisons un compte. 11 plus 12, plus 13, plus 14, plus 15. Combien ça fait? 11 plus 12, ça fait combien? Déjà, tu te trompes au début. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Alors, 23, plus 13, 36, plus 14, plus 15, 65. Quel est le nom de Dieu qui correspond au chiffre 65? Aleph, Dalet, Nun, Yud. Ça veut dire que la Megillah ne peut être lue que dans ce nom-là. Je répète avec la compréhension intérieure de ce que je viens de vous dire. Jamais tu verras la Megillah Esther avec le nom de Dieu dévoilé. Tu verras toujours le vêtement. Donc maintenant tu comprends pourquoi les sages nous disent Megillah Nikret. Elle se prononce, elle se dit ni moins ni plus que quoi que tous ces jours réunis, c'est-à-dire le nom de Dieu qu'on dit. Adon, 65 en valeur numérique. Quel?
Mais même le nom de Dieu n'est pas marqué, même ce nom.
Il y a fait. Mais ça, il y a fait. Mais donc, les sages viennent nous dire, même ce nom-là n'est pas le nom de Dieu. C'est ce que je veux te faire comprendre. C'est tout simplement le nom de la nature. C'est le nom où Akadosh Baruch Hu se dévoile d'une manière de maîtrise dans la nature. Qu'est-ce que ça veut dire Adon en hébreu? Maître. Ça veut dire je suis maître de la nature. Donc toi tu verras que des événements naturels, mais il faut que tu comprennes que c'est moi le maître de cette nature. Donc c'est le nom 65. Et maintenant, quel?
Le nom de Dieu par rapport à la nature, c'est pas Elohim.
Encore une fois, il y a plusieurs noms. Elohim, tu peux dire Elohim et pas Elohim, c'est la valeur numérique de la nature. Mais dans le mot Elohim, quel est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui agit dans ce monde? C'est toujours Adon. Quand tu fais une bracha, toujours tu emploies le nom Adon. Toujours, 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 toujours. Tu ne peux pas employer un autre nom. Après, tu dis Elohim. Puisque tu dis Elohenu. D'accord? Donc, Baruch Ata Adonai, Lamde Michukecha. Tu dis Elohim après. Quel? Yafemeod. Et ça, tu ne peux pas. Donc maintenant, reprenons la Mishnah. Megillah Nikret. Donc toi, tu verras les événements dans la nature que sous le nom de la force qui domine la nature, c'est-à-dire 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15. Et regardez la conclusion de nos sages. Lo pachot velo yoter. Lo pachot, ça veut dire ni moins ni plus. Alors, moins que 11, c'est combien? 10. Plus que 15, c'est combien? 10 plus 16, c'est le nom de Dieu. 26. Yutke vafke. Ça veut dire, la Megillah est lue seulement par le nom de Adon. Lo pachot velo yoter, et pas lo lifne velo achre, parce qu'il ne s'agit pas de temps, il s'agit de ni moins que 11, c'est-à-dire 10, ni plus que 15, c'est-à-dire 16, 10 plus 16 égale 26, c'est le nom de Dieu, Yudke Vavke, le tétragramme. Ça, tu ne peux pas. Regardez la sagesse de nos sages dans une petite Mishnah de rien du tout. Et tu peux toute ta vie lire cette Mishnah sans rien comprendre. Pourquoi? Parce que tu es pressé de lire la Mishnah et tu ne comprends même pas. Et quand je vous dis que étudier l'hébreu, c'est étudier la langue, ça veut dire qu'un Israélien normalement constitué, tout de suite il s'arrête, il te dit regarde, ils ne savent pas parler les mecs là, c'est qui a écrit ce truc là? Mais ils savent très très bien parler. S'ils ont écrit comme ça, c'est qu'ils avaient un code à nous donner. Et le code, il est clair maintenant. Tu ne verras plus Dieu, le Yudke Vavke, d'une manière dévoilée. Tu le verras toujours à travers son étui. Aleph Dalet Nun Yud. Et comme la Megillah, c'est elle qui représente ce schéma, c'est à partir de ce moment-là où Dieu se cache dans l'histoire. Ça veut dire que le schéma premier qui va nous offrir l'histoire du monde où Dieu se cachera dans les événements naturels, c'est Megillat Esther. Et donc celui qui cherche Yud, Ke, Vav, Ke ne trouvera pas. Parce que Dieu se cache très 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 bien dans la nature. Et donc la création de l'État d'Israël, Dieu s'est très bien caché. Il s'est tellement très bien caché que beaucoup de gens ne veulent même pas dire que Dieu a participé à cette histoire. Et donc, ils ne peuvent pas lire le Hallel le jour de l'indépendance d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas dans cette histoire. C'est évident pour nous. Et maintenant que tu as compris la Megillah, tu comprends que Dieu est bel et bien dans cette histoire, même s'il était complètement caché. Pourquoi? Parce que j'ai un exemple. La Megillat Esther elle-même. Comment les sages l'ont rentrée dans le canon du Tanakh? Alors qu'il n'y a même pas le nom de Dieu. Parce qu'ils ont compris qu'en réalité, c'est une nouvelle époque dans l'histoire de l'humanité. C'est une époque où Akadosh Baruch Hu va se cacher. Conclusion. Aujourd'hui, ceux qui attendent des miracles dévoilés, où des mains vont descendre du ciel avec des étoiles et des étincelles, ils vont rien comprendre, ils vont être déçus, parce qu'Akadosh Baruch Hu ne le fait pas. Non. Non. Jusqu'au moment du dévoilement total, après on reviendra à une autre histoire. On en parlera dans un autre cours. Ça veut dire, n'attendez pas des choses qui sont de l'ordre du surnaturel. Tout va se passer naturellement. Ça veut dire un tsunami va descendre au Japon et le Japon va faire sauter son usine atomique. Ça va faire une panique au niveau de toute l'économie mondiale. L'Iran va augmenter son pétrole. On paye l'essence maintenant 2 euros presque en France et ici 4 shekels et 70 et 80. Et tout ça, c'est des événements naturels. Ça, c'est des votes à la Knesset et tout. Il est où Dieu là-dedans? Il n'y a pas de Dieu là-dedans. Si, Dieu est là-dedans. Il est à l'intérieur de tous ces événements-là. Toi, tu n'as pas les yeux pour le voir parce que tu n'as rien compris à Megillat Esther. Mais si tu avais compris la Megillat Esther, tu aurais compris qu'en réalité, à partir de cette époque-là, Kadosh Baruch Hu se manifeste dans le monde à travers tous ces vêtements-là. Maintenant, vous comprenez pourquoi on parle autant de vêtements dans la Megillah? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de la robe de Esther, et que Mordechai, il avait un costume bleu ciel, et très laid, et qu'on lui a mis un truc sur la tête, et que le parterre du temple de Achashverosh, il est comme ça, et que les lits sont en argent, et que les lustres sont... Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de ça? C'est important, tout ça. Et pourquoi toute la fête de Pourim? Regardez aujourd'hui dans les écoles, c'est que des vêtements. Alors aujourd'hui, on appelle ça des déguisements. Mais vous avez compris le message? C'est ce qu'en réalité, Dieu se déguise, Dieu se cache dans le monde. Alors nous aussi, pour imiter, pour faire comprendre aux gens qui ne comprennent rien à la Megillah, à Pourim, alors on se déguise. Et si quelqu'un te dit, mais pourquoi on se déguise à Pourim? Qu'est-ce que tu dois lui dire? Parce que Dieu se déguise dans l'histoire depuis cette époque. Mais qu'il est derrière le masque. Fais attention. Ce n'est qu'un masque. Est-ce que vous avez compris ce message? À mon avis, c'est le message le plus important de Pourim. Si vous n'avez pas compris ça, alors Pourim, ça reste un petit jeu d'enfant, une fête pour les enfants, on se déguise, machin. C'est quoi tout ça? Ça, c'est le secret de Pourim. Le vrai secret de Pourim, c'est la capacité à comprendre que Dieu se cache dans l'histoire. Donc, l'olifne, veloachre. Tu ne verras pas le tétragramme Yudke Vavke, tu ne verras que le Dieu qui s'habille dans l'histoire, c'est-à-dire Adon, le maître. Ken?
Est-ce qu'il y a un rapport à la parche de où il dit Dieu, je vois le ma face?
Ben voilà. Mais je parle que de ça.
Non, après, c'est maintenant.
Encore une fois, Esther, Mina, Torah, Minain. Tu l'as lu, la quatrième ligne? Ça fait 3 fois que je fais un cours sur ça. Quel est le verset cité? Exactement ce que tu viens de dire. Va anochi Aster Astir, ça veut dire quoi? Esther, où est-ce qu'on va la chercher dans la Torah? Dans le fait que Akadosh Baruch Hu va voiler sa face. Quel est le nom qui va voiler sa face? Le tétragramme, Yud Kevavke. Donc, comment s'appelle le masque de Dieu? Aleph Dalet Nun Yud. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça le masque. Ça veut dire Dieu s'est mis un masque sur son visage, entre guillemets. Son visage, c'est Yud Kevav Ke, mais tu ne le vois pas. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois le déguisement. Tu vois Aleph Dalet Nun Yud. Est-ce que c'est clair ça? Si vous avez compris ça, vous rentrez à Pourim avec un autre degré, avec un autre niveau. C'est le vrai secret de Pourim. Et pas beaucoup de gens comprennent ça, parce que la Mishnah, pour eux, c'est la Mishnah. Là, je viens de vous faire la Mishnah selon la Kabbalah. Vous avez compris comment on étudie la Mishnah selon un kabbaliste. Ok? Ok. C'est la même question qu'il a posée. C'est la question qu'il a posée. Et j'ai répondu, c'est pas le nom qui nous intéresse, c'est ce qu'il représente. Qu'est-ce que c'est le Aleph Dalet Nun Yud? C'est toute la Megillah tout entière. D'où je sais ça? Ce qui a marqué Megillah Nikret. Comme Aleph Dalet Nun Yud Nikra. Je vous ai cité la Gemara tout à l'heure. Lo keshem she'ani nikhtav ani nikra. Ani nikhtav yud kevav ke, v'ani nikra Aleph Dalet Nun Yud. Megillah Nikret. Aleph Dalet Nun Yud, c'est la même chose. Donc toute la Megillah, c'est Aleph Dalet Nun Yud. C'est un grand déguisement. Et donc, qu'est-ce que je dois faire, moi? Savoir qui se cache derrière ce masque. On est d'accord? Donc, comment on dit se cacher en hébreu? Esther. Nistar, c'est la même chose. Esther. Comment on dit dévoiler en hébreu? Megillah. Megalot. Gilouï. Non, Megillat Esther, c'est l'association de deux noms, qui veut dire dévoiler ce qui est caché. Vous êtes avec moi? J'ai rien fait, je fais que de l'ulpan. Hein. Seulement, si vous ne comprenez pas tout ça, Megillat Esther, ça devient un seul mot. C'est la... Je sais pas comment on dit. Le rouleau d'Esther. Ça veut rien dire. Megillat Esther égale je suis en train de comprendre, de dévoiler ce qui est caché. Donc, qui représente Akadosh Baruch Hu dans la Megillah? Mordechai. Qui représente le nom de Dieu qui est, donc le masque du nom de Dieu? Esther. Donc, les deux acteurs principaux de la Megillah, Mordechai et Esther, c'est en réalité Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël, qui en réalité est le masque d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu agit dans ce monde grâce au vêtement qui s'appelle l'Assemblée d'Israël. Donc le nom Aleph Dalet Nun Yud appartient à qui? À l'Assemblée d'Israël. C'est notre nom à nous. Vous avez compris? Nous sommes le vêtement, la chemise d'Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu rentre à l'intérieur de nous et nous fait agir dans le monde. Alors on fait une guerre ici, on fait un machin là-bas, on voyage là-bas. Tous ces trucs-là, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais à travers ce vêtement qui s'appelle Israël. Ça, c'est un des plus grands secrets de la vie, pas seulement de Pourim. Si vous comprenez ce schéma, vous pouvez étudier en profondeur la Torah. Pas une Torah légère. Pourquoi? Parce que Pourim, c'est la seule fête avec Hanouka, c'est le même style, je ne rentre pas maintenant dans Hanouka, qui va rester à la fin des temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si j'ai compris le code intérieur de cette fête, j'ai compris toutes les fêtes de la fin des temps. Et maintenant, vous l'avez un tout petit peu plus compris, ce code-là. Et si vous approfondissez ce que je viens de vous dire, vous allez voir que c'est une merveille. Tout est codé à l'intérieur, mais il faut savoir voir, il faut savoir lire entre les lignes. Donc, regardez comme une simple Mishnah. Je n'ai même pas terminé la Mishnah. J'ai dit la première ligne de la Mishnah. Regardez les sages, quelle force ils avaient au niveau du secret de la Torah. Si on ne prend pas le temps d'étudier ça, alors tu passes sur cette Mishnah en 4 secondes. La Megillah, elle est lue le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, ni avant, ni après. Tu ne sais même pas ce qui a marqué. Tu es en train de raconter n'importe quoi. Et tu es content en plus, tu as compris la Mishnah. Ken? Et tu continues. Mishnah Bet, Mishnah Gimel, Mishnah Dalet. Et tu as l'impression qu'il y a un grand Talmid Chacham.
Vous avez même dit une fois que quand
Hachem nous demande un Tzipita, c'est ça. C'est ça. Tous les cours qu'on a fait pendant l'année. C'est bien que tu me rappelles ça. Si Pita le Yeshua, c'est une des questions qu'on pose à l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as compris ce que tu viens d'étudier avec Yoel dans ce cours du Machon Meir? Mais toute ta vie, pas seulement à Pourim. Est-ce que tu as compris qu'il faut chercher Dieu à travers les événements qui se passent devant toi, qui se trament dans l'histoire? Dans le voyage d'un président, dans le retour d'un truc, dans la bourse qui monte et qui descend, est-ce que tu as vu Dieu? Est-ce que tu as cherché à voir Dieu? C'est ça Tzipita, les Yeshua. Ok.
Il dit que Dieu maintenant allait se cacher dans le monde.
Pas aller, il est déjà.
Il se cache dans le monde.
Depuis Pourim.
Et justement, pourquoi il se cache dans le monde? Parce que, et qu'il ne se dévoile plus de façon claire et simple. Parce que maintenant, on est, disons,
mature. Tout à fait. Tout à fait.
Maintenant, les sages d'avant l'époque de Esther, etc., étaient des sages énormes.
Tout à fait.
Une doctorat incroyable. Et pourtant, il y avait ces miracles
qui étaient dévoilés.
On va dire qu'ils étaient plus matures que nous.
Okay. Au niveau individuel, il y avait des grands sages, mais la nation n'était pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous a fait grandir aujourd'hui? Pas les sages de la génération. La nation elle-même. Aujourd'hui, le peuple est beaucoup plus fort qu'à n'importe quelle époque. Les époques que tu es en train de citer, qui était fort à cette époque-là? Les Chachamim. Alors, il y avait un grand sage qui avait la connaissance, mais tous les gens dans la rue. C'était des gens, des pauvres gens normaux, ils savaient pas trop ce qui se passait. Aujourd'hui, la connaissance et l'imprimerie, ça aussi, c'est un événement qui a tout changé. On peut avoir l'Internet. Tu rentres dans n'importe quel cours, tu peux chercher n'importe quoi. C'est sûr que c'est dans le mal aussi, mais dans le bien aussi. Tu as le choix. Eh bien ça a fait en sorte que le peuple est en train de monter à un niveau qu'il n'a jamais atteint. Donc effectivement, il y avait des grands au niveau individuel, mais le peuple était petit. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, le peuple est très grand. Donc il est apte à recevoir la Géoula.
Alors la
Yerida Tadorot, c'est au niveau des individus, mais pas au niveau du peuple. Le peuple, il est beaucoup plus grand. Aujourd'hui, on a notre terre, on a une souveraineté sur notre terre, des choses qu'on n'avait jamais. Hier, Benjamin Netanyahu était à New York et il a dit là-bas, 2012, c'est plus 1943. Aujourd'hui, on peut se défendre. Vous ne pouvez plus nous faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, on a une armée. Aujourd'hui, on a une société, on a une économie, Baruch Hashem, tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui est à l'intérieur. Tout ça, c'est un déguisement. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que là-bas, dans cette époque-là, on n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'on était faible, on n'avait pas ni de pays, ni d'État, ni quoi que ce soit. Donc on était des petits individus qui étudiaient la Gemara, mais qui étaient maigres comme des fils de fer, et qu'on rentrait dans des chambres à gaz. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, il faut remercier Dieu à chaque instant. Nous sommes là. Vous êtes là pour défendre ce pays, pour défendre ce peuple. Si vous avez compris ce message-là, vous n'avez plus rien à faire ailleurs, même dans votre tête, vous n'avez plus envie d'être ailleurs. Parce que vous vivez l'histoire de la fin des temps avec votre propre peuple et vous donnez de vous-même à ce peuple-là. Il n'y a pas plus grand que ça. Pourim sa mère.